Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. Bonsoir Renate. Bonsoir Théo. J'espère que vous avez passé un bon début de semaine avec tout ce qui est tombé là.
Ça fait du bien à la terre.
Ah oui, ouais. Ça fait du bien. Et puis on est dans les giboulées de mars, hein. On est en plein dedans.
C'est exactement ça, mais on aura des beaux fruits et légumes du coup.
Voilà, ouais, il faut qu'il y ait un peu de froid quand même, si ça n'a pas dérouillé les bourgeons. Ben voilà, moi je suis ravie de vous retrouver encore pour de nouvelles recettes aussi gourmandes, simples et faciles à réaliser. On va voir ensemble le menu de ce soir. Donc pour ce soir, on a prévu de faire un crottin de chèvre frit au jambon de pays. Alors pour ça, il vous faudra de l'huile de friture, 6 crottins de chèvre sec. On aura besoin de 12 tranches de jambon cru, un œuf et 100 g de chapelure. Pour le matériel, une friteuse, c'est mieux. Ou alors une grosse casserole avec de l'huile dedans, mais voilà, une friteuse, c'est mieux. Et puis, on aura besoin d'un couteau, de 2 assiettes creuses, d'une fourchette, du papier absorbant et d'un plat de service. Pour le plat, nous irons faire de la brochette, une brochette d'agneau à la menthe. Vous allez voir, c'est très rafraîchissant, c'est très, très succulent. Moi, j'aime beaucoup, c'est très frais. Donc, on aura besoin de 5 cuillères d'huile d'olive. On aura besoin de poivre, de sel, 1 kg de sauté d'agneau, d'un jus de citron et d'un bouquet de menthe. Pour le matériel, un presse-citron, un saladier, un couteau, 6 brochettes et une poêle, c'est mieux, que j'ai oublié de vous mettre dans le matériel, mais c'est pas bien grave.
Oui, tout le monde a une poêle,
tout le monde
chez,
a
soi.
Une poêle de chez soi. Alors après le dessert, on en aura 2 desserts. On aura donc le kouglof aux noix. On aura besoin de 250 g de sucre glace, 3 cuillères à soupe d'eau, chaude de préférence. Alors pas brûlante mais chaude. 1 cuillère à café de rhum, 200 g de beurre, 250 g de sucre fin, un sachet de sucre vanillé, 180 g de noisettes ou de noix moulues. Donc ça, vous achetez et puis vous le mixez, hein, c'est aussi bien. On aura besoin de 120 g de farine, un sachet de levure chimique, 100 g de chocolat haché. Je vous expliquerai le haché, comment on le fait. Enfin, ça se fait rapidement avec le couteau. 5 œufs, un jus de citron, une pincée de cannelle. Pour le matériel, on aura besoin donc d'une râpe, d'un tamis, de 2 saladiers, d'un batteur fouet, d'une maryse et d'un moule à kouglof. Si vous n'avez pas de moule à kouglof, c'est pas grave, vous prenez un moule à gâteau normal. Voilà, c'est pas parce que vous avez...
Il n'aura pas la forme du kouglof, mais il aura
la forme du kouglof. Hein. Le moule à kouglof, c'est vraiment un moule très particulier, avec un dôme au milieu. Ouais. Donc, c'est particulier. Donc, vous inquiétez pas. Moi, voilà.
Un moule à charlotte, par exemple, ça peut le faire.
Oui, c'est un moule à charlotte ou un moule à gâteau. Hein. Moi, je fais ça dans mes... Je fais même ça dans des moules à cake, hein, parce que les moules à kouglof, j'en ai pas. Hein, mais moi, je fais ça dans le moule à cake, ça va bien. Mais voilà, c'était style de faire un petit peu de l'originalité et puis d'avoir un tour au niveau Alsace. On verra dans l'histoire tout à l'heure. Et puis on va finir notre dessert puisque le kouglof c'est quand même un produit qui est relativement sec. Hein, donc pour l'alléger, on va faire du lait de datte. Là moi j'en ai acheté sur le marché, elles sont succulentes. Donc j'en ai profité pour faire du lait de datte. Donc pour ça il ne faut pas grand chose, il faut 10 dattes, 30 centilitres de lait et un yaourt brassé. Si vous avez un yaourt nature, maison ou mettez, c'est pareil, puisqu'on aura besoin au niveau du matériel d'un mixeur, puisqu'on va tout mixer, et puis d'un chinois et d'un couteau. Voilà pour les ingrédients. Donc Nathalie, écoute, avant de commencer, je propose une pause, et puis on se retrouve tout de suite après pour l'histoire du jambon. Hein Nathalie ?
Ouais.
À tout de suite.
Ouais.
Bianca Costa, Joica, do Brasil. Vai. Tu m'as de haut en bas, de la tête au culot. Avant de vouloir m'en faire, prouve-toi un boulot. C'est l'essence, c'est la même équipe. 5 étoiles plus moi, ça fait 6. Avec Joica, on les corrige, ils ont tout faux. Qui siffre typique, l'amour fait mal. J'connais toutes tes vices, j'connais tes failles. Perds pas ton temps, économise mes gâteaux, je sais ce que tu vas dire. Viens dans ma casinha. Sois ma grosse tazinha. J't'appelle bébézinha. J'ferai tout pour toi. Laisse-moi, tu verras. Ça mouille, le fils ça brûle. Mais comme toi ça parle beaucoup. En face à face je te trouve timide. Sur les réseaux tu commandes tout. Tout, tout, tout. Un cascara et un silencieux. Tout, tout, tout. Aïe. Qui siffre typique, l'amour fait mal. J'connais toutes tes vices, j'connais tes failles. Perds pas ton temps, économise mes gâteaux, je sais ce que tu vas dire. Viens dans ma casinha. Sois ma gostosinha. J't'appelle bébézinha. J'ferai tout pour toi. Laisse-moi, tu verras.
C'est mon plan, pas, je me chemin.
Cuisiner en direct avec Anne, dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici, et avant de commencer par les crottins de chèvre frits au jambon de pays, j'aimerais bien que Nathalie, tu nous parles un petit peu de ce jambon.
Oui, alors le fameux jambon. Le jambon, c'est l'appellation charcutière désignant la cuisse ou l'épaule entière d'un animal destiné à être préparé cru. Donc après salaison, séchage et parfois fumage, ou cuite, donc dans ces cas-là c'est rôti, grillé, braisé, ou comme le jambon blanc, bouilli. Le plus souvent c'est le porc qui est utilisé, mais il existe aussi des jambons de sanglier, de dinde, de marcassin, d'ours, de renne, entier ou en tranche. Le jambon est une des principales spécialités de la charcuterie, où ses préparations alimentaires et même gastronomiques sont multiples. Et varié, je voulais faire la liaison mais j'ai raté. Le jambon fut pendant longtemps un mets royal ou réservé aux occasions spéciales. Au Moyen-Âge, où l'on était grand consommateur de porc, le jambon était associé aux fêtes de la Semaine Sainte, où il est interdit de manger de la viande. À cette époque, on transportait le jambon à l'aide de fourches.
Merci Nat. Alors moi, je vais peut-être me mettre à faire du jambon de marcassin ou du jambon de sanglier, là, du coup, parce que, ouais. Bon, bah écoute, ça peut être intéressant.
Moi, ce qui m'a interpellée, c'était l'ours.
Oui, oui, l'ours et le renne.
Alors les rennes, je pense que c'est peut-être plus en Amérique du Nord. Mais...
L'ours, c'est pareil, ouais. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire du jambon de ours. Voilà, comme quoi on apprend pas mal de choses, ouais. quand on nous écoute. Alors, pour cette recette, vous avez vu que... Alors, je n'ai pas employé le terme de crottin de chavignol, parce que le prix n'est pas le même.
D'accord.
Et par nos temps qui courent, un chèvre sec, ça suffit amplement pour faire la recette. Pareil pour le jambon, j'ai appelé ça le jambon de pays. Après, vous pouvez choisir, il y a pas mal de jambons différents qui sont plus ou moins chers, mais vous prenez pas la tête, hein. C'est étant donné que on va les mettre à la friteuse, faut pas prendre non plus un jambon qui est super cher, hein.
C'est ça.
C'est pas parce qu'il est plus cher qu'il sera meilleur. Hein, il y a des très très bons jambons qui sont faits par des charcutiers, sauf qu'ils n'ont pas une appellation. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je fais jambon de pays. Demandez à votre charcutier, vous allez voir, il va vous servir un petit jambon de pays qui peut être sympa. Alors donc pour ce crottin frit ou jambon de pays, il nous faudra donc une friteuse avec de l'huile normale, 6 crottins parce qu'on fait une recette, encore une fois je le dis, c'est des recettes pour 6 personnes. Donc il vous faudra 12 tranches de jambon cru, hein, donc 2 jambons de pays, un œuf, 100 g de chapelure, et puis côté matériel, donc la friteuse bien entendu, le couteau, 2 assiettes creuses, une fourchette, du papier absorbant et un plat de service. Alors pour cette recette, il faudra compter à peu près 15 minutes de préparation et 5 minutes de cuisson. Allez, donc on y va pour les explications. Vous allez voir, c'est assez simple. On va d'abord couper le jambon cru en bandes. Et dans la sens de la largeur. Et puis, on va rouler le crottin de chèvre dans les bandes. Donc, comme si on faisait une petite rosace, vous voyez. Donc, on prend par le milieu et on va aller chercher le milieu d'en dessous. Et vous allez voir, ça colle au chèvre donc facilement. Si ça colle pas, bah, vous humidifiez un petit peu et puis ça collera plus facilement. Donc vous humidifiez avec de l'eau bien évidemment, et puis vous faites la même chose donc pour couvrir entièrement le crottin de jambon. Donc avec des petites lanières, ça va simplement deux tranches par crottin, ça suffit bien. Hein, donc ensuite vous allez battre l'œuf. Alors dans la recette, j'ai mis un œuf, c'est un peu court pour les 6 crottins, donc mettez-en plutôt 2. Donc vous allez battre donc dans une assiette creuse les œufs, et puis dans une autre assiette, vous allez mettre de la chapelure. Donc je vous rappelle la chapelure, on fait ça avec des biscottes, avec du pain dur. Alors moi, je ne suis pas partisane d'acheter de la chapelure toute faite parce qu'elle n'est pas très très bonne.
Non.
On a toujours du pain dur à la maison, gardez-le, vous le mixez, ou vous le tapez avec un verre, dans un torchon avec un verre ou dans un saladier avec un verre. Voilà, la chapelure, c'est facile à faire, c'est peu onéreux et ça évite le gâchis. Je le redis encore ce soir. Et on revient à nos crottins. Donc nos crottins, on va les tremper dans un premier temps dans l'œuf battu. Et puis après, on va les mettre tout de suite dans la chapelure. Donc vous vous aidez de vos mains. Hein, donc ça c'est après vous, si vous faites à la cuillère. Moi j'ai vu ça, mais franchement je préfère mettre mes mains. Et l'idée, je le fais 2 fois. Pourquoi ? Parce qu'on a ce croustillant qui arrive. Donc, je fais tous mes crottins et après, je fais une deuxième couche. Donc, je remets un petit peu d'œuf et puis je remets un peu dans la chapelure. Et après, je les laisse un petit peu légèrement sécher, tranquille, 5-10 minutes, histoire que l'œuf absorbe bien la chapelure. Et après, j'allume ma friteuse, je vais les plonger 5 minutes dans la friteuse. C'est tout aussi simple. Une fois qu'ils sont cuits, donc au bout de 5 minutes, la friteuse est à peu près à 190, comme des frites, hein, donc vous ne prenez pas la tête. Et une fois que vous les sortez de la friteuse, vous les mettez sur du papier absorbant et vous les laissez refroidir avant de les servir, parce que l'intérieur risque d'être très chaud et le fromage fondu brûlant, c'est énorme. Donc le mieux, c'est de les servir bien chaud, mais pas trop. Et puis accompagné d'une salade, puisqu'on est on est dans l'endive en ce moment. Hein, donc,
c'est la pleine saison. Hein.
C'est la pleine saison, donc avec une petite salade d'endive taillée finement. Mmh. Et puis, si vous reste un petit peu de jambon, vous mettez des fines lamelles de jambon dans la salade d'endive. Vous allez voir, c'est un délice.
Avec 2-3 noix.
Alors, moi, je ne mets pas de noix parce que j'ai des problèmes avec les noix. Mmh. Donc, je ne mets pas de noix. Maintenant, il m'arrive d'en manger dans les gâteaux. Mais dans les plats comme ça, j'ai du mal. Voilà, mais c'est une question de goût. Effectivement, on pourra rajouter, alors si on veut pousser là, ces petites salades d'endives, vous pouvez rajouter des raisins secs, ça fait un mélange de salé et sucré, de la pomme, voilà, et puis un petit peu de noix, de noisettes, voilà. Amusez-vous, faites des choses un peu sympas et jolies à l'œil. Alors, on sert ça en entrée, mais pourquoi pas,
on peut faire un plat
hein, le soir, voilà. Comme ça, vous avez vos légumes et vous avez le fromage en même temps, ça peut être sympa, et vous avez la viande, donc tous les apports nutritionnels. Non.
Ouais. Bon. Comme on veut.
Comme on veut, voilà. On ne va pas se prendre la tête. Alors, Nat, est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le chèvre ? Alors, pas la chèvre, mais le chèvre. Ah oui, celle-là, il fallait que je la sorte. Mais sur le fromage.
Le fromage de chèvre.
Voilà.
Alors, l'élevage de chèvre, on parle quand même de la chèvre,
hein,
parce que c'est le fromage de la chèvre. Dans la région du Sancerrois, c'est une tradition qui semble remonter au XVIe siècle. La mention crottin de Chavignol est retrouvée dans l'ouvrage statistique du Cher, qui date de 1829. À la fin du XIXe siècle, l'épidémie de phylloxéra dévastant les vignes, une part importante des parcelles, et recyclé dans l'élevage de chèvres dans le Sancerrois, le Giennois et une partie aussi de la Sologne. Les premiers affineurs collectant le fromage dans les fermes se mettent en place au début du XXe siècle. Le crottin de Chavignol obtient l'AOC par le décret du 13 février 1976, paru au Journal officiel de la République française, le 24 février 1976, modifié par le décret du 29 décembre 1986. Le premier, paru au journal officiel le 1er janvier 1987. Le fromage obtient l'AOP en 1996. Le fromage est fabriqué par coagulation lactique du lait de chèvre, entier et cru, avec addition d'une faible quantité de présure. Le fromage dit repassé est un fromage bleu affiné en atmosphère confinée qui lui permet de conserver un caractère moelleux.
Alors, donc là, on a parlé du crottin
Chavignol.
De Chavignol. Donc là, on a une AOP depuis 96. C'est pas si vieux que ça.
Non, c'est assez récent, fin de compte. Hein.
Mais vous avez de très, très bons petits chèvres. Prenez-les encore une fois plus secs, c'est mieux. Ou mi-sec.
Ouais. Pour la cuisson, je pense frit, c'est mieux sec quand même.
Alors, ça dépend. Si tu veux un moelleux, parce que sec, il va avoir du mal à fondre. Mais si tu prends du mi-sec, on va avoir le jambon qui va bien coller tout autour. Et à la fonte, à la cuisson, la fonte se fera plus facilement. S'il est sec, ça sera plus long. Voilà. Donc, à vous de voir ce que... Mais un petit chèvre, pas forcément un crottin de Chavignol qui coûte parfois les yeux de la tête. Voilà. Bah, écoutez, avant de passer au plat, qui sont les brochettes d'agneau à la menthe, je vous propose une seconde pause et on se retrouve tout de suite.
L'émotion me semble plus m'appartenir. Que l'on se rencontre, elle et moi.
chaque fois qu'elle vient, qu'elle joue et qu'elle s'amuse, je me brise un.
Cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici donc pour la seconde partie de notre menu de ce soir, à savoir les brochettes d'agneau à la menthe. Alors après la chèvre qui fait mais, Nathalie, tu vas nous parler de l'agneau qui fait mais, tu vois, c'est pas du tout le même son.
Ouais, c'est léger,
c'est un petit agneau, hein, c'est un maillot. Alors vas-y, je t'écoute.
Alors l'agneau autrefois Agnel est le jeune mouton mâle âgé de moins d'un an. La femelle, elle, est appelée l'Agnel, petit de la brebis et du bélier qui sont couramment appelés moutons. Ceci est l'un des premiers animaux à avoir été domestiqué par l'humain. Il naît après une période de gestation d'environ 5 mois. La mise bas ou agnellage pouvant durer d'une à 3 heures. J'arrive plus à me relire. La brebis donne généralement naissance à un ou deux petits par portée. Le jeune mouton, lorsqu'il est un peu âgé, prend alors le nom d'Antenay. Les premières traces d'élevage d'agneaux sont attestées au Moyen-Orient et remontent à plus de 12 000 ans.
Alors, encore une fois, tu savais, toi, que la gestation, c'était 5 mois ?
Non.
Et que ça s'appelait un agneau, mais un agnel ?
Agnel ? Moi, je dirais agnel.
Agnel ? Ouais, c'est pas mal, agnel, c'est mignon. C'est, voilà. Donc, oui. Maintenant, vous penserez à nous quand vous verrez un petit agneau, c'est un agnel. Vous sortirez votre science, c'est bien. Voilà. Ben, on va revenir à nos brochettes parce que c'est pas le tout de, hein, les moutons, voilà. Moyen-Orient, moi, j'aime bien parce que le Moyen-Orient, ils ont quand même fait pas mal de choses.
Hein. Bah, ils mangent beaucoup d'agneaux.
C'est normal, ça fait partie de leur culture. Et puis, ils nous l'ont amené dans la métropole. C'est pas plus mal parce que vraiment, l'agneau, alors, bien préparé, c'est vraiment très très bien. Là, on va faire une marinade. Donc vous allez voir, c'est très court. Alors je vous rappelle un peu les ingrédients. Donc on a besoin de 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, du poivre, du sel, 1 kg de sauté d'agneau. Alors moi je prends du sauté d'agneau parce que c'est déjà pré-coupé.
Oui.
Donc comme ça mes brochettes, je n'ai pas à me prendre la tête à recouper ou autre. Et puis du citron bien évidemment. On aura besoin d'un bouquet de menthe et puis d'un presse-agrumes pour le matériel, un saladier, un couteau et 6 brochettes bien sûr. Alors vous pouvez prendre des brochettes en bois ou des brochettes en métal, hein, c'est comme vous voulez. Cette recette, là on n'est pas dans la période de barbecue, mais on pourra très bien le faire au barbecue. La cuisson est exactement la même que au four. Enfin c'est pas la même, mais la préparation c'est la même.
Oui.
Alors, donc pensez qu'il vous faudra 10 minutes de préparation. Donc, Là, jusque-là, ça va. 10 minutes de cuisson, mais on aura 2 heures de repos, puisque on va
il y a la marinade.
Alors, justement, pour faire cette marinade, on va commencer par presser le citron, et puis le mettre dans un saladier, et puis mélanger avec de l'huile d'olive, et on va prendre 10 feuilles de menthe, et on va les hacher. Alors, pas les hacher au hachoir mixeur, on va les ciseler en fin de compte, hein, les couper au couteau, ce qui va dégager le parfum de la menthe qui sera beaucoup plus agréable. Vous mettez tout ça dans un saladier avec votre viande, bien évidemment. Vous le filmez et vous laissez mariner 2 heures. Si vous pouvez le faire la veille, ça sera encore mieux. La viande sera vraiment imprégnée de cette menthe et de ce citron. Donc, si vous voulez que ça soit plus citronné, vous rajoutez un peu plus de citron. Si vous voulez que ça soit moins mentholé, on va dire, ben vous mettez moins de menthe. Voilà. Mais voilà, vous faites mariner 2 heures minimum. Ça suffit. Au réfrigérateur, bien évidemment, parce que ça reste de la viande. Et puis, vous retournez de temps en temps la viande, hein, de façon à ce qu'elle...
Vous la
mélangez. Alors, pas la peine. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un film ou un couvercle sur mon saladier. Et puis, je le secoue. J'ouvre pas le film ou le couvercle. Voilà, je secoue. Et puis, voilà, ça me laisse avoir toute ma marinade qui est faite. Et ça reste bloqué dans le couvercle ou dans le saladier. Ensuite, on va déjà préchauffer notre four. Alors là, on fait au four, mais encore une fois, on peut le faire au barbecue. Donc, quand on le fait au four, on met le four à chauffer à 160 degrés. C'est un thermostat qui est à peu près à 5-6. On va piquer la viande. Donc, les morceaux, donc on les aura mis en brochette, bien évidemment, hein, déjà. Et puis, on va les piquer un petit peu plus voilà, sur la brochette. Et puis, on va les laisser cuire au four à peu près 10 minutes à 160 degrés, tout simplement. À la sortie du four, en fin de cuisson, on va saler et poivrer, suivant le goût. Et puis, vous servirez ça avec, accompagné d'une semoule, par exemple couscous, ou du riz au curry. Ça, c'est comme on veut, ou juste avec une salade. Hein. Ça peut être l'été, ça sera peut-être plus une salade. L'hiver, ça sera peut-être avec de la semoule couscous ou du riz au curry. Voilà. Donc, vous allez voir, c'est délicieux, c'est rapide. Il n'y a vraiment pas grand-chose vous pouvez même préparer le matin la marinade. Et puis le soir, vous faites vos brochettes et vous les cuisez au four 10 minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. C'est le temps aussi qu'on fasse gonfler la semoule avec de l'eau chaude. Hein, moi, je sais que je fais me gonfler ma semoule avec de l'eau chaude. Et puis, c'est le temps de cuisson du riz pour ceux qui font du riz. Donc, vous voyez, en 10 minutes, vous avez un plat qui est correctement fait et rapide et surtout bon et avec un bon goût. Alors, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu quelque chose sur la menthe.
Oui, alors, il y a les menthes, parce qu'il y a différentes menthes. Ça forme un genre de plantes herbacées vivaces de la famille des Lamiacées, sous-famille des Nepetoideae, tribu des Mantaeae, sous-tribu des Mantinae. Voilà, aujourd'hui, vous saurez parler latin. Ce genre comprend de nombreuses espèces, dont beaucoup sont cultivées comme plantes aromatiques et condimentaires, ornementales ou médicinales. Le principal producteur, c'est le Maroc, notamment pour la préparation du fameux thé à la menthe. Si les menthes sont connues et appréciées pour leur qualité aromatique depuis l'Antiquité, certaines ont acquis une grande valeur économique depuis quelques décennies. Des 18 espèces de menthe actuellement acceptées, seulement 3, le Mantha aquatica, le K.M. canadensis et la spicata, et leur hybride, je vous passe les noms, domine le marché mondial pour la production d'huiles essentielles.
Tout à fait. Donc on utilise les 3 sortes de menthe par chez nous, mais après les autres, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est, les autres, c'est vraiment pour l'industrie d'huile essentielle.
Ouais.
Voilà, parce qu'on a des menthes poivrées, il faut faire attention.
C'est
parce
ça, il y a des différences entre la menthe verte et la menthe poivrée.
Oui. Et quand vous faites... moi, j'ai fait du thé à la menthe, croyant que c'était avec de la menthe poivrée. Je peux vous dire que ce n'est pas du tout...
C'est pas bon.
Non, c'est pas voilà, bon. C'est, voilà, vous ne gourez pas et allez chez les petits commerçants qui vendent, vous en avez sur Marché de Corbeil, qui, eux, connaissent bien et vous avez des parfums de menthe qui sont extraordinaires, vraiment. Pour le thé à la menthe ou pour la cuisine, hein, de toute manière, c'est exactement le même. Hein, que vous preniez pour le thé à la menthe ou pour la cuisine, c'est exactement le même bouquet.
Oui, c'est le
même.
Exactement. Mais on peut aussi, même quand on n'a pas de jardin, on peut faire pousser de la menthe très bien en pot sur son balcon
ou
sur le rebord
très
de sa fenêtre. Hein.
Oui, parce qu'en plus, une fois qu'elle est prise, c'est comme du chien-dent.
Oui.
Elle se ramifie et vous en avez plein. Bah, l'hiver, elle va se faner complètement.
Oui, c'est moche l'hiver, il faut dire ce qui est.
Voilà, mais après,
et ça reprend.
Ça reprend. Oui. Moi, je vous conseille de faire sur vos balcons, qu'on ait un jardin ou pas, sur vos balcons, mettez de la menthe, du persil, de ciboulette. Ça va être le moment, là. Hein. Fin mars, on va pouvoir commencer à faire les semis, on va pouvoir commencer à faire des cultures,
ouais.
C'est sympa. Pensez aux aromates, il y en a plein. C'est vraiment... et puis, ça fait joli sur les balcons, sur les portes-fenêtres.
Je crois que ça chasse certains insectes, en plus, il me semble. Surtout la menthe.
Oui. Les moustiques n'aiment pas.
Oui.
Ça change un peu des géraniums. Moi, franchement, les géraniums, ouais, ça me gonfle.
C'est sympa, ça sent bon.
Voilà.
Et puis
vous servez...
sur le rebord des fenêtres, du coup.
Exactement. Donc, pensez à... En ce moment, vous pouvez mettre du persil frisé, vous pouvez mettre de la ciboulette, vous pouvez mettre de l'estragon, de la sauge. Enfin, bon, il y a plein d'épices que vous pouvez mettre. Et puis, de la menthe. Vraiment, c'est le moment. C'est le moment. Allez-y, lâchez-vous. Alors, on ne les met pas dehors tout de suite parce qu'il y a encore les dernières gelées. Et puis, il y a encore beaucoup de pluie. Mais vous pouvez commencer déjà à faire vos achats d'épices et garder ça dans votre cuisine. Ça peut être sympa aussi.
Exactement.
Voilà. Mettre en suspension, ça peut être très joli dans une cuisine. Bon, bah, écoutez, merci Nathalie pour toutes ces précisions. Avant de passer au dessert, une petite pause. Et puis, on va se régaler pour le dessert. À tout de suite.
Salut, c'est Pierre Demar, vous écoutez Infini Radio.
Je l'aime mort, et dans mon film on est si beau. Regarde.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors, on est passé au dessert maintenant, ça y est. On passe au sucré. Ça, c'est la partie préférée de Nathalie.
Ouais, je suis plus sucré.
Hein. Ouais. Alors, par contre, tu vas peut-être nous parler de l'histoire de la datte.
Ah oui, la datte, c'est un fruit comestible. C'est le fruit du dattier, sous le nom latin Phoenix dactylifera. C'est un cultivar populaire pris pour un arbre. C'est un fruit charnu, oblong, de 4 à 6 cm de long et qui contient un noyau allongé marqué d'un sillon longitudinal. C'est un fruit très énergétique. Les dattes sèches sous cette forme, la datte de Glay, nous est la plus réputée avec son petit fruit et bien parfumé. Viennent ensuite la halawi, qui est tendre et sucrée, la déri, qui a un goût de caramel, la saïdi, qui est un peu plus ronde et légèrement moins sucrée que les autres, plus grosse, la datte medjoul, est très tendre et sucrée, alors que l'amari est plus riche en fibres. Les variétés kenta, alig et quatalig sont également commercialisées. La dessication des dattes débute sur l'arbre et se poursuit au soleil et dans des étuves en veillant à conserver aux fruits ses qualités gustatives. La datte doit garder son parfum et rester suffisamment moelleuse.
C'est pour ça qu'on arrive à trouver des bonnes dattes. Tout dépend de l'espèce, encore une fois. Hein, donc, et on ne parle pas des producteurs, mais je pense que le Maroc, tous les pays du Maghreb, ils en ont. Hein.
C'est moi, ça. J'ai,
ouais,
ouais, en Turquie, je crois, il y en a beaucoup aussi. Oui.
Donc voilà, mais faites votre marché, vous verrez, c'est super bon et puis c'est énergique.
C'est meilleur sur le marché par contre, s'il y a un conseil, les trucs en barquette là, tous ces...
grande surface, non. Vous allez en avez plutôt, une dizaine dans la barquette qui sont à moitié secs,
ouais, c'est ça.
Allez sur le marché, vous en avez qui sont en vrac, et puis vous en avez qui sont en boîte d'un kilo et vous avez la provenance dessus.
Ouais.
Donc allez-y, plus ça colle, meilleur c'est.
Oui.
Voilà. Donc, et puis, si vous avez envie de vraiment d'en déguster des très, très bonnes, dans ces cas-là, bah, vous allez directement au pays, au producteur. Ce sera aussi bien, ça vous faire prendre le soleil. Voilà, pour ceux qui veulent et qui peuvent. Alors, on va revenir à
notre lait
de datte. Donc, pour ça, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Hein. On aura besoin donc de 30 centilitres de lait, d'un yaourt brassé et de 10 dattes, d'un mixeur, d'un chinois et puis d'un couteau. On compte 10 minutes de préparation, ça suffit amplement. Même en 5 minutes, ça peut être fait. Ça dépend de vos compétences et de votre rapidité. Dans un premier temps, on va dénoyauter. Je pense que c'est le plus long, sachant que quand elles sont bien mûres et qu'elles sont bien faites, le dénoyautage vraiment prend pas grand chose.
Oui.
Même en tirant, parce que bien souvent on vous les vend avec la branche dessus, c'est mieux. Voilà, c'est une marque de qualité. Ben, vous tirez sur la branche et en fin de compte, le noyau reste sur la branche et le fruit reste. Donc on n'a même pas besoin de couteau. Si jamais vous avez besoin de couteau parce qu'elle reste sur la, elle se le noyau ne s'enlève pas. Dans ces cas-là, vous ciselez dans le sens de la longueur et puis vous sortez le noyau délicatement. Et puis après, bah, vous allez mixer finement les dattes dans un premier temps. Et puis,
ça fait une pâte, du coup, non ?
Oui, ça fait une pâte. Et pour éviter que ça fasse une trop grosse pâte au niveau et trop collante, vous allez rajouter un petit peu de lait dans un premier temps. Vous allez mixer le tour et puis, pour faire la liaison. Et puis après, vous rajoutez le reste du lait et vous rajoutez le yaourt et vous finissez de mixer finement. Le mieux, c'est de filtrer après avec un chinois, de façon à ce que tout ce qui est un petit peu peau et qui est un peu des résidus, peu importe, hein, de la date, qui n'est pas mixé, eh ben, reste dans le chinois et vous avez un liquide qui est du lait de date. Voilà, c'est à servir bien frais, donc au dessert, avec un kouglof par exemple, hein, on peut mélanger, ou alors du thé, du goûter, comme vous voulez. Donc ça, c'est à déguster, savoir que c'est un produit qui est hyper énergétique.
Oui, mais du coup, le matin, ça peut être pas mal parce que ça donne la
tout
pêche
à fait,
pour
tout
la
à
journée.
Fait. Donc le matin,
ou après le sport.
Exactement, exactement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le dessert, vous pouvez le prendre le matin. Voilà. Il ne faut pas en abuser non plus parce que c'est quand même très, très sucré.
Oui.
Donc, il faut faire attention et bien pour la santé. Et puis, faites ça, faites goûter ça à vos enfants. Vous allez voir, ils vont péter la forme le matin. Faites ça plutôt le matin. Parce que l'énergie là, au goûter, ils en ont peut-être
non,
pas.
Non, puis comme ça, ils vont se dépenser toute la journée, ce sera évacué.
C'est ça, tout à fait. Voilà, alors pour passer au kouglof, Nathalie, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ce kouglof qui a plusieurs noms, tout dépend de la région où on est.
Alors vous m'excuserez parce qu'il va y avoir des mots un peu compliqués pour moi. Le kouglof ou le kougalof, j'ai pas l'accent alsacien, mais de son nom originel alémanique ou encore kouglof, kougalof, kouglouf aussi en alsacien du Haut-Rhin, kugelhupf en allemand, kugelhupf en francine lorrain, le furmukus en tchèque babovka. Et c'est une spécialité donc alsacienne de l'Autriche, de la Tchéquie et du sud de l'Allemagne. Le kouglof dont l'apparence est caractéristique en raison de son moule, on en parlait tout à l'heure, qui lui donne une forme haute, cannelée et creusée en son milieu. Le kouglof peut être sucré avec des raisins secs imbibés de rhum ou de kirsch et des amandes, ou alors salé avec des lardons et des noix. Cette spécialité a été pendant longtemps un gâteau de célébration préparé pour de multiples occasions, Noël, mariage, naissance, fête de village, etc. Il est plutôt dégusté de nos jours au petit déjeuner en version sucrée et à l'apéritif dans sa version salée. Les historiens, eux, peinent à reconstituer l'histoire du kouglof car peu d'écrits en font mention au XIXe siècle. Il est en tout cas certain que le kouglof existait déjà au XVIIIe siècle, date des moules les plus anciens que l'on a retrouvés. Alors, il existe plusieurs légendes qui permettent d'expliquer l'origine du kouglof. L'une d'elles provient de Ribeauvillé et prétend que cette pâtisserie fut confectionnée pour la première fois par les rois mages pour remercier un pâtissier local du nom de Kugel. Kugel de son hospitalité et que la forme est celle de leur turban. Marie-Antoinette aurait mis à la mode à la cour de France ce gâteau populaire en Autriche. Une autre affirme que la brioche alsacienne serait originaire de Bethléem. Un roi mage en sortant de la crèche y aurait oublié son chapeau, un turban en fil d'or serti de diamants en forme d'amande. À son retour de croisade, ce couvre-chef se serait retrouvé chez un pâtissier strasbourgeois qui s'en serait servi comme moule. Bon. Ainsi serait né le Kugelhopf, qui signifie turban en alsacien. On raconte également que le kouglof serait le père du babaorum. Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et beau-père de Louis XV, avait installé sa cour à Lunéville, en Lorraine. Il trouvait le kouglof local un peu trop sec. Et pour le satisfaire, sa pâtissière fait alors tremper le kouglof dans un sirop de sucre additionné de rhum. Un siècle plus tard, le pâtissier Georges importe le kouglof de Strasbourg, tandis que son collègue Stoer fait du baba la spécialité de sa boutique au Palais Royal. L'origine du mot kouglof viendrait de Gukelpfer, œuf, c'est pas facile, hein, je vous assure. Hein. Gugel signifiant cagoule, chaperon en France à la mode au Moyen-Âge en Allemagne, et hupf venant peut-être de F signifiant levure. Certains pensent que la transition vient du mot kugelhut. Kugel signifiant boule et hutte, chapeau, qui était le chapeau des parlementaires de Strasbourg à l'époque.
Merci Nathalie. Oh, moi, c'est... je te jure, quand je te vois, j'ai galéré. Ah ben oui, mais ça, c'est... Alors, c'est quand même un grand voyage, quand même, le Kougloff, hein, on ne sait pas si...
C'est dingue hein, qu'on ne sache pas, c'est, en fait. Hein.
Oui, enfin bon, ça a quand même, effectivement, si on regarde bien, ça a la forme, le moule du Kougloff, ça a la forme naturellement.
Oui.
Si, et moi, je fais le rapprochement par rapport à ce que tu as dit, mais c'est, ça fait penser à ça, quoi. C'est assez c'est surprenant. Voilà, alors merci pour cette belle histoire parce que voilà, c'est quand même en quelques mots, on pourrait en parler toute la nuit, je pense, du Kougloff. Hein, et puis j'aime bien ton accent. Voilà, moi ça me fait beaucoup rire.
Je suis pas alsacienne, hein.
Non, c'est. Te moque pas des Alsaciens.
Je me moque pas.
Alors, on va justement faire cette seconde recette de ce soir. Donc, c'est un second dessert hein, qu'on pourra servir avec le lait de date, bien évidemment. Donc, pour ça, il vous faudra 250 g de sucre glace, 3 cuillères à soupe d'eau chaude, 1 cuillère à café de rhum. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, c'est qu'une cuillère à café. Hein, oui. C'est vraiment minime. C'est l'histoire de lui donner un petit peu... Alors, si vous trouvez que c'est trop fort au niveau du rhum, vous pouvez le remplacer par le kirsch. Mais au niveau du taux d'alcool, je crois que c'est pareil. C'est quasi pareil. On aura besoin aussi de 200 g de beurre, 250 g de sucre fin, d'un sachet de sucre vanillé, de 180 g de noisettes ou de noix. Important, c'est qu'elle soit moulue. Et puis en farine même, hein, ou pas, peut-être plus grossièrement, c'est comme vous le sentez. 120 g de farine, un sachet de levure chimique. Alors pour les gens qui connaissent le Kougloff, c'est normalement une pâte levée. Et là, on le fait avec de la levure chimique. Voilà, parce que forcément, tout le monde n'a pas de la levure de boulangère, ce qui est pour le Kougloff en général. Voilà, donc c'est un Kougloff qui s'appelle pas un Kougloff, voilà, mais ça reste les mêmes épices. On va avoir besoin de 100 g de chocolat haché, 5 œufs, un jus de citron, une pincée de cannelle. Pour le matériel, on aura besoin d'une râpe, d'un tamis, de deux saladiers, d'un batteur fouet, d'une marise et d'un moule à Kougloff ou un moule à gâteau, tout simplement. Vous aurez besoin de 20 minutes de préparation et ça va cuire pendant 50 minutes quand même. Hein. Donc prévoyez-le parce que on ne le sert pas chaud, ce Kougloff. On le mange tiède ou froid. Voilà, donc déjà on va commencer à l'aide de votre râpe. On va retirer le zeste du citron et on va le préserver. On va séparer le jaune et des blancs. On va hacher le chocolat, donc ou vous le hachez dans... Alors moi j'aime bien, je fais dans un torchon et à coup de marteau, comme ça.
D'accord.
Voilà, comme ça. Ou alors, plus simplement, vous mettez un coup dans le mixeur, mais il faut que vous ayez un mixeur qui tienne la route. Hein.
Ouais.
Parce que si le chocolat est trop dur, vous allez péter votre mixeur s'il n'est pas en métal. Donc bon, après vous le hachez comme vous voulez. Vous pouvez aussi le râper avec la râpe, hein, le chocolat, ou le couper au couteau, le hacher grossièrement. L'important c'est que ça nous fasse des petites pépites, mais pas que. On aurait pu acheter des pépites, mais ça fait pas pareil dans le Kougloff. Donc le mieux c'est de le hacher. Dans un saladier, vous allez donc à l'aide du batteur fouet, vous allez mettre le beurre, fouetter le beurre qui sera déjà en pommade, hein, donc et avec le sucre, puis vous allez rajouter le sucre vanillé, et ensuite vous rajouterez donc les œufs, les jaunes d'œufs, le zeste de citron, la cannelle, ce qui va vous faire obtenir une petite pâte, hein, donc là du coup vous arrêterez avec le fouet parce que ça va être un peu plus dense et le fouet va pas aimer. Vous rajoutez les noix, vous mélangez bien et puis vous allez rajouter au mélange la farine et la levure. Alors pour que ce soit plus fluide, c'est mieux de la tamiser. Donc si vous n'avez pas un tamis, vous prenez un chinois, encore mon fameux chinois qui sert à beaucoup de choses. Et ben vous le passez au chinois, comme ça s'il y a des petites impuretés dans la farine, la farine sera beaucoup plus légère et votre gâteau aussi. Et puis à l'aide de la maryse, vous continuez à bien mélanger pour avoir une pâte assez homogène. Vous montez vos blancs en neige quand vous avez fini votre préparation, vous montez vos blancs en neige, faut qu'ils soient bien fermes. Donc et une fois qu'ils sont montés bien fermement, vous allez les incorporer à la préparation avec une maryse et tout en délicatesse. Donc une fois que vous avez cette préparation qui est bien mélangée à la... Donc les blancs sont bien mélangés à la préparation que vous avez faite, et bien vous y ajoutez le chocolat haché, voilà, gentiment, délicatement, pour pas faire retomber les blancs en neige.
Comme si c'était une mousse au chocolat, il faut être délicat.
C'est tout à fait ça. Ensuite, ben, on va verser donc, notre belle préparation qui sera un peu mousseuse du fait des blancs en neige dans le moule à Kouglof beurré. D'accord. Alors, pas la peine de fariner, ça ne sert à rien. Vous pouvez, mais bon, voilà, mm-hmm. C'est pas obligatoire. Ou dans le moule à gâteau, peu importe. Voilà, faut bien que ça soit beurré. N'hésitez pas à en mettre une bonne couche de beurre, de façon à ce que ça se démoule très facilement. Et puis, vous allez le cuire 50 à 60 minutes au four à 180 degrés. Donc, je vous rappelle le thermostat, c'est 6 à 7 au thermostat. Et à la sortie du four, donc au bout de 50 à 60 minutes, vous démoulez votre gâteau, votre Kouglof, et vous le laissez refroidir. Donc, vous faites attention parce que si vous avez choisi un moule à Kouglof qui est en terre cuite, ça brûle, même en métal, ça brûle, mais prenez des gants. De façon à ne pas vous brûler. Mais l'important, c'est de le démouler tout de suite. Parce que s'il refroidit, votre beurre que vous avez mis sur le bord va refroidir et ça va attacher. Donc le mieux, c'est de le démouler chaud. Vous le mettez sur une grille et vous le laissez refroidir tranquillement. Maintenant, on va s'occuper du glaçage. Parce que le Kouglof, en général, c'est avec un glaçage. Donc toujours, on va aller tamiser le sucre glace. Donc toujours pour la même chose avec notre chinois, pour enlever les différentes petites boules qu'il peut y avoir dans le sucre glace. On va y ajouter la quantité d'eau chaude nécessaire pour obtenir une pâte fluide. Hein, donc... pas trop liquide non plus, donc vous y allez doucement en mettant une cuillère à café par cuillère à café.
Qu'est-ce que ça doit avoir comme consistance?
Un peu gélifiant. C'est un glaçage, hein, donc il ne faut pas que ça soit liquide parce que sinon ça ne sert à rien. Et comme on va rajouter du rhum ou du kirsch, faut faire attention. Donc il faut vraiment que ça soit une pâte comme un fondant. Un fondant qu'on va mettre sur des éclairs au chocolat. Faut vraiment que ça soit un petit peu épais. Voilà, c'est l'histoire de napper le Kouglof. Donc, on va rajouter petit à petit ça fasse une pâte, hein, une pâte avec du sucre glace et puis de l'eau chaude. Et on va le parfumer avec du kirsch et du rhum. Et puis après, on va le déposer et le napper, le Kouglof. S'il n'y en a pas partout, c'est pas bien grave. Faut que ça soit joli à l'œil. Voilà, s'il y a des coulures, c'est plus joli. Enfin, c'est un aspect un peu plus rustique. Voilà, et puis vous allez déguster ce dessert avec ou pas, hein, c'est comme on veut, avec le lait de date qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez faire ça en dessert, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ça pour le goûter des enfants ou comme tu l'as dit tout à l'heure, pour le petit déjeuner, ça peut être aussi bien. Oui, oui. Sachant qu'il y a des noix, qu'on a du chocolat et tout ça réuni, ça fait un bon petit déjeuner. Il n'y a pas besoin de voir davantage, hein, et puis de prendre d'autres céréales qui ne sont pas forcément bonnes. Donnez des bonnes choses à vos enfants et à vous-même, de façon à bien bien démarrer la journée. Eh bien voilà, bah, écoutez, oh là là, déjà ça passe vite, ouais. On arrive à la fin de l'émission. Voilà, ben vous pourrez retrouver dans nos podcasts tous les. Je sais, je l'ai mal dit. Je m'en excuse, Théo. Toutes nos recettes et donc différentes. Ah. On me dit qu'il nous reste encore 5 minutes. Quoi vous dire pendant 5 minutes ?
Si, moi, je vais peut-être vous dire une chose par rapport aux dates. On peut faire du lait de date, mais pourquoi pas faire aussi... Je ne sais pas si tu connais les Energy Balls. C'est beaucoup à la mode. Et c'est un peu ta préparation sans le lait.
Ah ouais ?
C'est-à-dire qu'en plus, tu peux rajouter des morceaux d'amandes et tout ça, tu prends ça le matin ou effectivement...
Mais tu, pour lier l'ensemble, tu fais comment ?
Alors, il faut que ça fasse une pâte, en fait.
Ouais.
Donc, la base, c'est faire une pâte de date. Donc,
ouais.
Tu haches, comme
ouais,
tu fais au départ. Sauf qu'avec, tu vas mettre des amandes ou des noisettes.
Ah oui, donc tu prends les dattes, tu les mixes et après, tu mélanges avec différentes fruits secs dedans.
Ouais.
Ah, ça peut
Alors, ça ne se conserve pas très longtemps, mais c'est tellement bon. Et en fait, tu les roules en boule, il faut les mettre au frigo. Et le matin, après la session...
C'est une barre de céréales, en fin de compte, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça. Sauf que c'est des petites boules et ça s'appelle des energy balls. Et du coup, tu prépares tes petites boules. Avant d'aller faire du sport, ça te permet, ou t'emmènes ça quand tu vas faire ton sport, et ça te permet de faire un apport d'énergie d'un coup,
c'est
ou
pas
le
mal,
matin,
ça.
Ou l'après-midi, parce que tu piques du nez et que t'es un peu fatigué ou machin. Voilà, c'est une idée aussi de faire avec les dates qui resteront, parce que de toute façon...
Oui, enfin bon, moi je sais que quand j'en achète,
oui,
elles font pas long feu malheureusement,
ouais,
mais il y a plein de recettes. Vous avez aussi le gâteau de dattes. Il faudrait que je retrouve la recette. Moi j'avais fait un gâteau aux dattes, c'est super bon, hein. C'est
ouais, je connais
mais
pas
ton
du
idée
tout.
De comment tu dis
Energy Ball.
Energy Ball. Ben je vais creuser, je vais essayer de faire une recette et puis ben, dans nos prochaines émissions, on fera un spécial goûter énergie ou un truc comme ça.
Oh, pourquoi pas, ouais.
Pourquoi pas. Donc si moi je relance mon annonce, hein, si vous avez des idées et que vous voulez savoir un peu des recettes un peu spécifiques,
exactement.
N'hésitez pas à nous le mettre par mail ou sur Facebook, la page de Infini.
Exactement.
Et puis on cherchera, je testerai parce que j'aime bien tester toutes les recettes en général. Toutes les recettes que je dis à la radio, je les ai au moins testées une fois. Alors, quand je dis tester...
Tester et approuver.
Voilà, tester et approuver. Il y a des recettes que vous ne verrez jamais, vous n'entendrez jamais à la radio parce que ça a été une catastrophe. Donc, je n'en parlerai même pas. Mais il faut savoir que, voilà, toutes les recettes, ouais, je les ai au moins faites une fois. Et il y en a certaines que j'ai faites, que je fais régulièrement parce que, ben, avec mon métier, on n'a que ça. Voilà, partager ces bonnes recettes avec des gens qu'on aime et puis qu'on invite à la maison, c'est toujours un bonheur. Et puis cuisiner ensemble en famille, c'est toujours des bonheurs à partager ensemble. Voilà, moi je vous conseille de le faire.
Et puis c'est des recettes faisables par tout le monde et faciles à reproduire.
Alors,
parce
voilà.
Que des fois on voit des recettes de grands cuisiniers, on se dit oh là là, ça a l'air trop bon. Mais quand on voit pas la difficulté, mais la longueur pour faire, parce qu'il y a plusieurs préparations, c'est long, c'est
Alors,
compliqué, il y a des ustensiles
la cuisine,
qu'on n'a pas forcément.
La cuisine est simple, les ustensiles, vraiment, prenez pas enfin, je vais faire de la contre-pub, mais c'est pas la peine d'acheter l'ustensile, le dernier cri, machin, si c'est pour que ça reste dans le placard. Vous avez tout à portée de main. Si vous n'avez pas un éminceur, ben un couteau, ça sert, c'est un éminceur avant tout. Enfin, voilà, une fourchette, ça vous aide à faire des dessins. Enfin, il y a plein de choses. N'allez pas non plus. Voilà, moi j'ai acheté. Hein, je suis pas une grande cuisinière, mais j'ai acheté plein de petits trucs dont je me sers jamais. Voilà, des tailles légumes.
Et je crois que tout le monde a dans son placard.
Voilà,
au moins
mais,
des choses.
On se laisse tenter parce qu'on se dit tiens, on va le faire, on va s'en servir. Alors que ben, vous avez d'autres choses et puis plus simples. Et encore une fois, la cuisine, là, pour les émissions qu'on fait, moi je veux montrer aux gens qu'on peut bien manger. Sans faire 3 heures de cuisine.
Oui, c'est ça.
Voilà, et c'est ça l'important, c'est que les gens qui nous écoutent aient envie de cuisiner, de faire et de refaire ces recettes et qui sont vraiment faciles et voilà et sans difficulté, sans vous prendre la tête et avec des bons produits encore une fois et en respectant les saisons.
Oui,
des fruits et légumes.
Important.
Voilà, moi j'essaye de respecter ces saisons. Ces saisons. Oh, je vais y arriver.
C'est dur à dire, ces saisons.
C'est dur à dire. J'ai pas un cheveu sur la langue, mais là, c'est... Voilà. Comme on arrive en fin d'émission, c'est normal. On va dire que ça fait une heure qu'on parle. Voilà. Bah, écoutez, il nous reste juste à vous dire qu'on se retrouve encore la semaine prochaine,
oui.
Même heure, même jour, avec des recettes tout aussi bonnes que ce soir et puis faciles à réaliser, comme d'habitude. Il nous reste à vous dire bon appétit.
Oui.
Une excellente soirée.
Oui.
Et
aussi.
Puis surtout, prenez soin de vous et des vôtres. Bonne soirée. À la semaine prochaine.
Bonsoir.